Mediapolis, au cœur de l'histoire des médias. Mediapolis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mediapolis, l'émission qui explore les rouages de l'information et de la désinformation. Cette semaine, on va parler d'un sujet essentiel, souvent invisible, les bulles de filtre et l'effet de chambre. Pourquoi voit-on toujours les mêmes idées sur nos réseaux sociaux ? L'algorithme nous enferme-t-il dans une bulle où le débat n'existe plus ? Pour en discuter, je suis avec Marine. Salut Marine !
Salut Lola, ravie d'être là.
Et comme chaque semaine, Lucas nous parlera de la fake news du moment.
Exactement, et vous allez voir, les réponses sont assez intéressantes. Bon alors, je suis encore parti recueillir vos avis dans les rues de Dijon, cette fois-ci autour de la question « Pensez-vous que les algorithmes vous enferment dans une vision unique du monde ?» Alors voici un petit condensé de vos meilleures réponses.
C'est tout le concept, oui, bien sûr que ça t'enferme dans une bulle, puisque par recommandation, on va te proposer des choses qui te conviennent à toi, donc on te propose plus de choses qui te conviennent, et tu aimes bien, et ça continue de t'en proposer plus, et la boucle est bouclée.
Oui et non. Oui, parce que forcément, l'algorithme va cibler ce que tu as envie de voir. Mais en même temps, il y aura toujours d'autres choses. Enfin, l'algorithme, bah, je pense en tout cas, n'est pas toujours à 100% entre guillemets fiable. Donc on a toujours des choses qui sont pas forcément en accord ou autre. Donc l'algorithme ne va pas me renfermer sur ce que j'ai déjà comme vision, forcément.
Non, ça nous conforte dans notre vision à nous des choses. On encourage l'algorithme, c'est pas l'algorithme qui nous encourage.
Et voilà pour ce petit recueil d'opinions. N'hésitez pas à réagir vous aussi sur nos réseaux sociaux.
Merci Lucas, passons maintenant à notre chronique du jour. Aujourd'hui, dans Mediapolis, nous plongeons dans l'un des phénomènes les plus omniprésents et pourtant les moins visibles des réseaux sociaux. Les bulles de filtre et l'effet de chambre. Ce phénomène se joue à un niveau très intime entre vous et votre écran, mais ses conséquences sont immenses pour le débat public. Quelles sont les racines de cette situation? Comment nos algorithmes ont-ils transformé nos manières de penser et d'interagir? Et surtout, quelles sont les solutions pour sortir de cette dynamique?
Avant d'aller plus loin, on doit bien comprendre ce que sont ces concepts. La bulle de filtre fait référence à un phénomène où les algorithmes des plateformes numériques, comme Facebook ou encore Google, nous enferment dans un espace où nous sommes seulement exposés à des contenus qui confirment nos croyances préexistantes. Cela ne veut pas dire que nous sommes conscients de cette manipulation. En fait, nous avons simplement l'impression d'être en contrôle, mais en réalité, l'algorithme gère nos choix.
Exactement. Et l'effet de chambre, c'est un peu la conséquence sociale de cette bulle. Plus nous sommes enfermés dans une bulle de filtre, plus nous interagissons avec des personnes partageant les mêmes idées, renforçant ainsi nos convictions. Ce phénomène de chambre d'écho fait qu'une opinion qui a déjà été validée par un petit groupe finit par se diffuser dans un cercle de plus en plus large, et parfois, ce qui était une petite discussion locale devient une réalité collective.
Les algorithmes de recommandation comme ceux utilisés par YouTube, Facebook ou Instagram sont au cœur de cette problématique. Leur but premier est de maximiser notre engagement et pour ce faire, ces plateformes exploitent notre psychologie. Lorsqu'un contenu génère des émotions fortes, que ce soit de la colère, de l'indignation ou de la joie, il y a de grandes chances qu'on le partage et c'est précisément ce que les algorithmes recherchent.
Exactement. Et pour comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, il faut savoir qu'ils ne sont pas là pour nous donner le meilleur contenu en termes de vérité ou de diversité, mais pour maximiser le temps passé sur la plateforme. L'objectif, c'est simple. Plus on est exposé à un contenu, plus on reste longtemps, plus les publicités sont vues, donc plus les revenus sont élevés. C'est un business. Or, ce qui retient l'attention des gens, ce sont les contenus polémiques, extrêmes et souvent biaisés.
C'est en partie pour ça que les bulles de filtre peuvent être si pernicieuses. Prenons par exemple un utilisateur qui suit principalement des pages qui véhiculent des opinions très politiques, disons conservatrices ou progressistes. En fonction de ses interactions, l'algorithme va lui suggérer encore plus de contenus similaires, souvent de plus en plus extrêmes. C'est une sorte de radicalisation numérique qui peut se produire sans que la personne ne s'en rende compte.
Ce phénomène n'est pas seulement un problème d'information, c'est aussi un vrai problème de société. Quand on est exposé uniquement à des contenus qui valident notre vision du monde, on devient moins enclin à écouter, ou même à tolérer des points de vue différents. C'est là que l'effet de chambre devient vraiment préoccupant. Il crée une sorte de bulle mentale, un isoloir idéologique qui finit par fracturer le lien social.
Oui, on parle souvent de bulle de filtre, mais le terme de chambre d'écho illustre bien ce qu'il se passe. Tu n'entends que les voix qui te ressemblent. Résultat, tu perds l'habitude du débat contradictoire. Et même pire, tu finis par considérer ceux qui ne pensent pas comme toi comme mal formés, mal informés, voire hostiles.
Et on a vu très clairement les effets concrets de ce phénomène lors des élections américaines de 2016. C'est un cas d'école. Sur Facebook notamment, des millions d'utilisateurs ont vu circuler de fausses informations qui collaient parfaitement à leurs opinions politiques. Et comme ces contenus étaient abondamment likés, partagés et commentés, ils ont été rendus encore plus visibles par les algorithmes.
Il y a d'ailleurs une étude du Pew Research Center qui a montré qu'à cette période, environ 64% des Américains étaient enfermés dans des bulles politiques sur Facebook. Et ça ne touchait pas que les républicains. Chacun était dans son coin. Les partisans de Trump étaient exposés à des récits sur la corruption de Hillary Clinton, sur des théories du complot, pendant que les démocrates voyaient passer des contenus critiquant Trump, mais sans jamais croiser des informations venues de l'autre camp.
Et ça, ça a des conséquences bien réelles, parce qu'à force, chacun vit dans une réalité parallèle. On ne partage plus la même vision du monde, ni même les mêmes faits de base. Du coup, le dialogue devient presque impossible. On se méfie les uns des autres, on se radicalise, l'effet de chambre ne fait pas que nous désinformer, il nous désunit.
Ce n'est pas seulement valable pour les États-Unis. Ce type de polarisation commence à apparaître un peu partout, y compris en Europe. Il suffit de voir comment certaines thématiques, comme la vaccination, l'immigration ou même l'écologie, deviennent des terrains ultra politisés où le débat s'efface au profit de récits binaires sans nuance.
Effectivement, ce phénomène ne se limite pas à la politique. Prenons un autre exemple, la question du changement climatique. Les personnes qui doutent de la réalité du réchauffement climatique peuvent se retrouver enfermées dans des bulles où tous les arguments sont contre les scientifiques et où les théories du complot prennent de l'ampleur. L'effet de chambre rend quasiment impossible l'émergence d'un débat rationnel car chacun est uniquement exposé à des sources validant ses croyances.
Et c'est là où les médias sociaux jouent un rôle clé. Les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter ou même encore TikTok ne sont pas simplement des lieux de rencontres sociales, mais des moteurs de la division idéologique. Un exemple très parlant serait celui de la fake news du vaccin et puce 5G. Cette rumeur n'a pas seulement circulé parmi un petit groupe marginal, elle a été alimentée par des vidéos et des publications qui se sont propagées sur des pages et des comptes influents, fermant ainsi la porte à tout dialogue contradictoire.
Oui, et cette fermeture à la contradiction n'est pas une coïncidence. Les algorithmes eux-mêmes favorisent des contenus polarisants et émotionnellement chargés. Les commentaires, les likes, les partages, tout ça vient renforcer une sorte de bulle autour de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho. On finit par entendre surtout des gens qui pensent comme nous, ce qui donne l'impression que notre point de vue est majoritaire ou même évident.
Exactement, et ça va bien au-delà des débats politiques ou sanitaires. Aujourd'hui, des théories du complot, des fake news, des infos complètement fausses circulent plus vite que les contenus vérifiés, parce qu'elles sont plus spectaculaires, plus choquantes et plus virales.
Le problème, c'est que ces contenus sont taillés pour retenir notre attention. Les plateformes ont tout intérêt à ce qu'on reste scotché, donc elles nous montrent ce qui nous plaît ou ce qui nous énerve d'ailleurs. Et à force, on s'enferme, sans même s'en rendre compte, c'est un isolement intellectuel très pernicieux, parce qu'il nous fait croire qu'on est informé, alors qu'en réalité, on est juste exposé à une version très filtrée du monde.
Et plus on avance là-dedans, plus il devient difficile de dialoguer avec quelqu'un qui pense autrement. Non pas parce qu'on n'est pas d'accord, ce qui serait sain, mais parce qu'on ne partage même plus la même base des faits. Là, ça devient plus inquiétant.
Donc quelle est la solution face à tout ça? Bien sûr, l'un des leviers, c'est l'éducation aux médias. Apprendre à distinguer l'information de la désinformation, à comprendre comment les algorithmes fonctionnent et à diversifier ses sources d'information. Une autre piste consiste à remettre en question nos comportements en ligne. Pourquoi avons-nous tendance à ne suivre que ceux qui partagent nos opinions? Comment éviter cette fermeture intellectuelle et chercher activement des points de vue différents?
Le plus important, c'est de ne pas rester passif, diversifier ses sources d'informations, prendre du recul sur ce que l'on voit et remettre en question nos propres convictions pour éviter d'être piégé dans une chambre d'écho.
Merci de nous avoir écoutés. On l'a évoqué en début d'émission, Lucas revient au micro pour clôturer avec la fake news de la semaine.
Et oui Lola, cette semaine on reste dans le thème des algorithmes et des fake news, mais cette fois-ci on part à l'international. Récemment, des documents provenant de la Social Design Agency, une agence russe de désinformation, ont été dévoilés au grand jour. Via la création de fausses informations, cette agence vient essayer de déstabiliser les systèmes politiques européens en passant par exemple par de faux articles de presse, des vidéos créées de toutes pièces ou encore une multiplication de réactions inventées. L'agence avait même pour cible l'entreprise de sondage française Ipsos afin d'influencer les données politiques pour mettre en avant certains partis d'extrême droite. Bon alors je vous rassure, l'Ipsos a annoncé n'avoir jamais travaillé de près ou de loin avec eux. Derrière toutes ces fausses informations, la SDA aurait publié des milliers de faux commentaires via de faux comptes afin de créer de l'interaction autour de fake news sur les réseaux sociaux et ainsi jouer avec les algorithmes pour que ces fausses informations prennent de l'ampleur. Le but derrière tout ça, eh bien, promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. Alors, heureusement, l'ensemble des documents provenant de cette affaire ont été divulgués, mais c'est dans ce genre de cas que l'on se rend compte que nous sommes, de près ou de loin, exposés directement aux fake news. Voilà, c'était tout pour cette semaine, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle actu fake news.
Merci Lucas pour ce point actu. Effectivement, on peut voir que l'utilisation d'algorithmes s'étend même jusqu'à l'international. Merci de nous avoir écoutés, merci à Lucas et Marine de m'avoir accompagné sur cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour analyser la naissance d'une rumeur.
Mediapolis, au cœur de l'histoire des médias.